Bonjour tout le monde.
And thank you for a very nice breakfast.
Merci pour un si bon petit déjeuner.
It's a joy to be with you again.
C'est une joie que d'être avec vous encore.
And if you have your New Testament this morning, I'd like you to turn in with me to the first letter of John.
Et si vous avez votre Nouveau Testament avec vous, j'aimerais que vous tourniez dans 1 Jean chapitre 2, la première épître de Jean chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 11 inclus. Donc du verset 3 au verset 11 inclus.
Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen.
Au verset 8, nous avons un verset, une affirmation merveilleuse. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. C'est une de ces affirmations merveilleuses, incroyables du Nouveau Testament. Ce qui est vrai, ce qui était vrai en Jésus est vrai en vous et en moi. On va considérer donc des conséquences de cette vérité dans la première épître de Jean, mais aussi dans l'évangile de Jean. Et au chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons fellowship l'un avec l'autre, et le sang de Jésus-Christ continue à cleansing us de tous nos sins. » Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Dans l'évangile de Jean, au moins à 4 reprises, Jésus est décrit comme étant la lumière du monde. Au chapitre 1, alors que Jean-Baptiste était en train de rendre témoignage de Jésus sur Jésus, au verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et si vous tournez dans l'évangile de Jean au chapitre 5, l'homme qui a été guéri à la piscine, qu'il a ensuite rencontré dans le temple. Et rappelez-vous que lorsque l'on parle du temple dans le Nouveau Testament, eh bien, il parle de vous et moi, pas d'un bâtiment. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de pierre. Il a dit que nous sommes des pierres vivantes construites pour former un édifice spirituel afin de pouvoir offrir des sacrifices spirituels vivants. Dans Jean chapitre 5, donc, l'homme qui a été guéri à la piscine, il l'a rencontré plus tard au temple. Non, plutôt c'est au chapitre 8, il a dit « Je suis la lumière du monde » au verset 12 du chapitre 8. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On le lit encore au chapitre 9, verset 5. Il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et encore au chapitre 12, au verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Une des grandes illustrations que Jésus utilise pour décrire sa propre vie. Il était toute lumière, il n'y avait pas de ténèbres en lui. Et la chose merveilleuse, c'est que nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus avait la foi de croire que vous et moi, vous pouvez devenir ce qu'il était. À une autre occasion, il a dit, je suis le pain vivant. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit que nous sommes ce pain qui a été rompu. Hier soir, j'ai dit que l'Esprit de Dieu vient pour reproduire la vie de Jésus en nous. Donc, ce qui était vrai en lui, ce qui est vrai en lui, c'est ce que dit Jean, est vrai en nous. C'est une parole merveilleuse, incroyable. Et ça ne devient possible que par la venue du Seigneur Jésus, afin qu'il gère, qu'il prenne en charge ce qui est impossible en vous, pour finalement donner, déverser son esprit pour qu'il vienne habiter en vous et en moi, pour nous faire devenir ce qu'il était en tant que fils de l'homme. Nous ne pouvons pas être, nous ne pourrons jamais être ce qu'il était en tant que fils de Dieu. En ce sens-là, il était totalement unique. Mais tout ce qu'il était en tant qu'homme, vous et moi, vous pouvez l'être. Alors que nous laissons le Saint-Esprit reproduire ce qu'il était en nous. Il était la lumière du monde. Vous et moi, vous êtes la lumière du monde. Si on retourne dans 1 Jean, au verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Au verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ma vie et votre vie doit être toute lumière. Toutes les ténèbres sont parties. Rien n'est caché. Il n'y a pas de crainte à ce que quelque chose soit exposé. Lorsque la lumière du merveilleux évangile de Dieu vient briller dans nos cœurs, vous lisez ça dans 2 Corinthiens chapitre 4. Alléluia. C'est merveilleux quand la lumière du Seigneur Jésus vient briller dans nos cœurs. Et il anéantit, il bannit tous les ténèbres. Parce que les ténèbres, bien sûr, sont une illustration du péché. Il vient pour ôter ce péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire bien plus que le fait de pardonner les péchés. Dans Matthieu chapitre 3, il est question du fait qu'il ait mis la hache à la racine de l'arbre. C'est merveilleux de savoir que nos péchés sont pardonnés. C'est ce qui est dit dans le premier chapitre de 1 Jean, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais ça, ce n'est pas une affirmation sans condition. La condition, c'est que nous pardonnions. Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Ceux qui croient donc à 1 Jean chapitre 1, verset 9, mais qui entretiennent dans leur cœur de l'amertume ou du ressentiment contre une autre personne. Jean décrit cette situation d'une manière si radicale. Et bien sûr, il ne faisait qu'exprimer ce que le Seigneur Jésus avait exprimé. Qu'il était lumière comme Jésus était la lumière. Donc dans 1 Jean chapitre 2, au verset
6,
celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans les écrits de Jean, apparaît souvent cette idée que comme lui a marché, ou de la même façon que lui a fait ceci, nous aussi. Il y a un homme en Inde qui est maintenant mon interprète, mon traducteur, que j'ai rencontré la première fois lorsqu'il avait 11 ans. À cette époque-là, il ne parlait pas un mot d'anglais. Il n'a jamais suivi de cours d'anglais. Il n'a jamais été éduqué dans la langue anglaise. Mais son vocabulaire actuel en anglais est plus grand, plus complet que beaucoup d'anglais. Il avait l'habitude de s'asseoir au fond d'une église méthodiste où je prêchais. Il n'avait aucune idée de quoi j'étais en train de parler. Mais il se souvient de cette phrase. C'est comme lui. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais je crois que c'était là la première fois où Dieu a commencé à implanter dans son cœur la semence de la parole. Et qui a fait par la suite qu'il a pu sortir des ténèbres pour être amené dans la lumière. Et qui lui a donné la capacité à marcher juste comme Jésus a marché. Personne n'est au-delà de l'atteinte de Dieu. Quelle qu'ait été la méchanceté de nos cœurs, Dieu peut nous amener, nous faire sortir des ténèbres pour nous amener dans sa lumière. Et nous donner cette capacité à marcher comme lui-même a marché. Tous, chacun d'entre nous ici dans cette salle, nous savons comment marcher. C'est simple. Alors, un de mes héros, était Billy Bray. C'était un petit voyou. Si vous pensez à quelque chose, il l'avait fait. C'était un alcoolique. C'était un voleur. C'était un adultère. Tout ce qu'un homme méchant pouvait avoir fait, il l'avait fait. Il était strictement sans éducation. Mais un jour, le Seigneur l'a rencontré. Et il a révolutionné sa vie. Et il était prêt à marcher 60 km le dimanche matin pour prêcher l'Évangile. Et lorsqu'il arrivait à l'église, les anciens disaient, « Oh, Monsieur Bray, asseyez-vous, reposez-vous un peu. » Et Monsieur Bray disait, « Mais pourquoi ?» Il a dit, « Où est le pupitre ?» C'est là-bas. Et il allait tout de suite. Et on disait, « Mais Monsieur Bray, mais comment tu fais ?» Il a dit, « C'est simple. » Il dit, vous mettez un pied devant l'autre et vous dites gloire, alléluia,
gloire, alléluia.
Et il dit, comme ça, les kilomètres disparaissent. Je me souviens lorsque notre fils aîné a marché pour la première fois. Il a maintenant 44 ans. Il y avait un ami qui nous rendait visite alors. Et ils avaient une fille qui avait à peu près le même âge que lui. À peu près 9 ans. 9 mois, pardon. 9 mois. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la pièce, cette petite fille pouvait marcher. Et on pouvait voir la fierté, l'orgueil qui montait dans le cœur de John, notre fils. On pouvait lire ses pensées. Si elle peut le faire, moi je peux le faire. Donc il s'est levé. Et il a marché au travers de la pièce pour la première fois de sa vie. Nous devons marcher juste comme il a marché. Cette vérité est décrite, exposée dans l'épître aux Éphésiens. Au chapitre 4, il est dit, au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous ne devons pas marcher comme le monde marche. Nous ne devons pas marcher comme le prince de la puissance de l'air marche. Mais nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'esprit. Alléluia. Nous devons marcher juste comme Jésus a marché. La marche, c'est simplement une description de la vie chrétienne que nous faisons quotidiennement en mettant un pas devant l'autre, en avançant vers le but ultime avec devant Dieu. Nous sommes dans un pèlerinage. Notre but, c'est le ciel. Et chaque pas que nous faisons sur cette terre doit nous amène plus près de ce but. Gloire à Dieu. Quel est l'état de notre progrès? Certains marchent depuis plus longtemps que d'autres. Mais nous sommes tous sur le chemin. La vie chrétienne était souvent référée comme étant le chemin, le chemin de la voie à suivre pour vivre, le chemin pour marcher, pour marcher juste comme lui a marché.
Amen.
On va considérer une autre vérité dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. En Matthieu 5, 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont les, le cœur pur, car ils sont bénis de Dieu. » Et l'Épître aux Hébreux réaffirme cela. Hébreux chapitre 12, au verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté est indissociablement liée à la justification, la justice. Nous sommes rendus justes devant Dieu comme un résultat de la justification par Dieu. Et la preuve que cela s'est produit réellement dans notre vie, c'est que nous vivions dans cela. Nous devons être saints comme lui-même est saint. Vous trouvez ça dans 1 Pierre. C'est une citation du livre de Lévitique. Dieu a toujours recherché un peuple saint. C'est ce qu'il aspirait envers Israël, vis-à-vis d'Israël. Qu'il soit une nation sainte. 1 Pierre chapitre 1, au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est strictement impossible, sauf si l'Esprit de Dieu agit. Nous sommes participants de sa sainteté. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous rendre des hommes et des femmes saints, dont les vies sont pures et saintes. C'était la grande aspiration de David, après qu'il ait péché avec Bathsheba. Il a supprimé son époux, le mari de Bathsheba. Il a commis l'adultère. Il a tout couvert, tout caché, de sorte à ce que personne ne le sache. Parce que le mari était mort. Et donc, les gens pouvaient penser qu'il s'était marié légitimement. Et aux yeux des gens, tout allait bien. Jusqu'à ce que Dieu envoie son prophète Nathan. Il raconte à David une histoire. Il a raconté l'histoire de deux hommes qui habitaient dans un village. L'un était très pauvre et l'autre était remarquablement riche. Et le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il aimait chèrement. Tandis que le riche avait de grands troupeaux. Et lorsqu'un jour le riche reçut un ami, au lieu de tuer une de ses brebis, Il a pris la brebis du pauvre et l'a tué et a nourri son invité. Et David a dit, celui qui se comporte comme ça doit mourir. Et Nathan a regardé David et lui a dit, c'est toi l'homme en question. Et David savait tout de suite que Dieu savait ce qu'il avait fait. Et plus tard, il a écrit ce psaume 51, si merveilleux, où il dit, c'est contre toi seul que j'ai péché, que j'ai fait ce mal à tes yeux. Il a péché contre Bathsheba. Il a péché contre le mari de Bathsheba. Oui, il n'a pas dit qu'il a péché contre Bathsheba, contre Uri, mais il savait qu'il avait péché contre Dieu. Et parce que Jésus a dit que ce que vous faites au moindre de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Et ensuite, David continue en disant, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous avons un cher frère qui vit avec nous dans la communauté à Liverpool et je l'ai entendu chanter. Oh, rends-moi pur, oh, rends-moi pur. Chacun d'entre nous, sans exception, nous avons fait de notre vie une ruine. La Bible, Jésus nous dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Et si nous avons de la haine contre un frère, nous sommes déjà meurtriers. Jésus a élevé le standard de la loi de ici jusque là et l'a rendu doublement impossible. C'est pour ça que Jésus est venu, de sorte à ce que ce qui était impossible devienne possible, afin de créer en vous et en moi un cœur pur. Alléluia. Afin que nous puissions vivre dans la lumière et de marcher juste comme il a marché. Une vie qui est pure aux yeux de Dieu. Afin que nous soyons saints comme il est saint. Pur comme il est pur. Considérons une autre vérité. C'est dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous devons être justes comme lui était juste. Ça veut dire qu'on doit être honnête. On doit être droit. On ne peut plus tricher. On ne peut plus mentir. On ne peut plus manipuler la situation. La justice, c'est de vivre une vie droite. Dans 1 Corinthiens, dans chapitre 1, au verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'ai lu un petit livre qui s'appelle un christianisme simple, écrit par un homme qui s'appelle John MacArthur. Et voilà ce qu'il dit. Jésus réitère le standard de Dieu en disant que nous devons être parfaits comme lui-même est parfait. Dieu commande que nous soyons saints comme lui-même est saint. En disant cela, n'a pas créé un nouveau standard pour l'humanité. Il n'a jamais eu d'autre standard que la perfection, la sainteté parfaite pour les hommes. Alléluia. Dieu n'a qu'un seul standard. Et ce standard était révélé dans la personne de Jésus-Christ. Comme j'ai dit hier soir, Jésus était le premier homme normal qui ait vécu sur la terre. Il était le premier fils de Dieu. Vous voulez voir cette parole, vous la trouvez dans Colossiens, chapitre 1, et au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il était le tout premier homme à vivre sur la terre de la manière que Dieu avait préparée pour l'humanité. Et en tant que fils de l'homme, il a vécu la vie d'un homme normal. Dans toutes les limites et les restrictions que connaissent les hommes, l'Écriture nous dit qu'il a été tenté de la même manière que nous, mais il n'a jamais péché. Il était toute lumière. Il a marché juste comme Jésus a marché. Il était juste. De la même manière qu'il attend que tout homme et toute femme soient justes. Gloire à Dieu. Dieu n'a qu'un standard. Et il n'a jamais baissé ce standard. C'était le standard qu'il avait attendu de son peuple, le peuple d'Israël. Mais encore dans le Nouveau Testament, il est écrit que encore et encore que son alliance a été brisée. Il a été fait justice pour nous. On ne peut pas se rendre juste nous-mêmes. C'est seulement lorsque nous recevons sa justice que nous devenions participants de sa nature et que nous avons le même Saint-Esprit qui habitait en lui, qui vient habiter en nous. Afin d'accomplir dans votre vie, dans ma vie, ce qui était manifesté dans la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Quel merveilleux standard Dieu a établi devant nous. Et nous avançons chacun de gloire en gloire. Comme j'ai dit, la marche, c'est une progression. Ce n'est pas simplement une expérience. On peut tous regarder en arrière une expérience. Quand Dieu a fait un miracle dans nos vies, il a chassé les ténèbres et il nous a donné la puissance de marcher comme lui-même a marché. Et il a mis en nous un cœur pur. J'aime cette parole dans Ézéchiel, au chapitre 37, quand il est dit « Je vous aspergerai avec une eau pure et vous serez purs ». Il a dit « Je vous donnerai un nouveau cœur et j'enlèverai le cœur de pierre. Je vous donnerai un nouvel esprit. Et dans ce nouvel esprit, je pourrai implanter mon esprit. Et alors, vous marcherez selon mes voies et garderez mes commandements. C'est ce que Dieu a anticipé. C'est la merveilleuse provision qu'il nous a donnée. Amen. Considérons une autre vérité. Dans Jean chapitre 1, cette fois-ci, au verset 17, Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, 17. C'est le chapitre qui concerne l'amour de Dieu. So it's 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit, vous pouvez aimer juste comme il a aimé dans ce monde. Les gens pensent parfois que c'est une qualité de vie qui est réservée à l'éternité. Nous lisons souvent comme ça dans l'Écriture des choses qui ne sont pas là. Parce qu'il est dit ici, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas un aspect de la vie dans le ciel. Bien sûr, ça sera d'autant plus vrai dans le ciel. Mais nous devons anticiper ce qui sera vrai là-haut, sur la terre déjà. Nous lisons déjà dans le livre de Deutéronome que nos jours seront comme les jours du ciel sur la terre. Et nous connaissons tous la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous le prions souvent, mais nous comprenons rarement ce que ça veut dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie que Jésus menait sur la terre, c'était exactement la même vie qu'il menait dans le ciel. Et la vie qu'il mène au ciel est venue sur sa terre pour la vivre sur la terre. Pour nous montrer comment Dieu attend que chacun d'entre nous nous vivions. Nous devons aimer comme lui-même a aimé sur cette terre. C'est toute la loi. C'est ce que Jésus a dit. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que Dieu a fait de nous quelqu'un qui aime? Et vous savez, quand je considère ces vérités, il y a des fois où j'ai envie d'aller serrer dans les bras chacun d'entre eux, des gens qui sont là, afin d'apporter l'amour de Dieu aux autres hommes et femmes. Les Écritures ont travaillé mon esprit maintenant depuis des jours. Et cette parole de l'évangile de Jean, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est la plus grande aspiration de mon cœur. Ce ne sont pas des paroles que nous prêchons, c'est les paroles que nous disons. Elles sont esprit et vie. Elles sont une communication de la nature même de Dieu. Et
Est-ce que mes paroles et vos paroles constamment communiquent la nature de Dieu aux hommes et aux femmes? Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Sans Jésus-Christ, cela est strictement impossible. Nous sommes appelés à être des gens qui aiment. On n'a pas besoin d'être intelligent pour aimer. Amen. Mais lorsque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, alors nous recevons la capacité d'aimer sur cette terre comme lui-même a aimé, juste comme lui. En dehors de ça, c'est strictement impossible. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait été répandu abondamment dans nos cœurs par son Esprit. Et ensuite, ça devient impossible de ne pas aimer. Gloire à Dieu. Nous devons aimer comme lui a aimé. Dieu a tant aimé le monde. Le calvaire, c'est lorsque Dieu a étendu ses bras pour embrasser tout le monde. Dans 2 Pierre 4, 9, il est dit, « C'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » C'est un amour qui inclut tout le monde. Que Dieu remplisse tellement nos cœurs de son amour, de sorte que nous puissions aimer les hommes et les femmes inconditionnellement. C'est la puissance qui va attirer les hommes et les femmes dans le royaume de son Fils. Alléluia. Retournons dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. C'est la prière sacerdotale de Jésus qui est divisée en trois parties. Les premiers sept versets concernent la prière de Jésus à son Père. Et du verset 6 au 19, il prie pour ceux qui étaient avec lui. Et ensuite, du verset 20 jusqu'à la fin, il prie pour vous et moi. C'est ce que nous lisons au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. S'il y a bien une prière qui a été entendue dans le ciel, c'est celle-là. Et lorsque vous la lisez, vous la lisez à genoux. Et posez-vous une question. Est-ce que je suis la réponse de cette prière de Jésus? Alléluia. Est-ce que nous sommes la réponse de la prière de Jésus ce matin? Regardez le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
In John chapter 14, verse 19, no, verse 20, he says, that day you will know that I am in the Father, you are in me, and I am in you.
Dans Jean 14, verset 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
That's his great prophetic word.
C'est sa parole prophétique.
In verse 23,
et au verset 23, il dit, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui. C'est ça sa promesse. Et dans Jean 17, 22 que nous avons lu, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il a prophétisé, il a promis. Et il a prié. Afin de rendre possible le fait que comme lui était un avec le Père, nous soyons un avec lui. Une des dernières déclarations que Jésus a pu faire avant d'aller au calvaire. C'est la vérité qu'il a gardée dans son cœur jusqu'à ce moment de l'histoire. Avant, il avait dit à ses disciples, « Il y a des choses que je voudrais vous dire, mais je ne peux pas vous les révéler maintenant. » Et afin que ce soit opérationnel dans vos vies, dans ma vie, il est allé le sceller au calvaire. Afin d'accomplir la parole prophétique, pour garder sa promesse. Et prier son Père que comme lui et son Père étaient un, nous soyons un. C'est cette union dont il parle. Que nous soyons un avec lui. Gloire à Dieu. C'est ce genre de relation qu'il avait avec son Père, il veut que vous l'ayez avec lui. C'est une relation d'intimité. C'est pour ça que le mariage est une grande illustration de cette intimité. Lorsque deux personnes deviennent une seule chair, dans tous les sens du terme, il a dit que je veux que vous soyez un comme nous sommes un. Cette union indivisible avec Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça qui va nous permettre de prier sans cesse. Et c'est encore une affirmation de la Bible pour laquelle les gens disent « Comment c'est possible ?» Parce que nous avons des idées préconçues concernant ce que c'est la prière. Nous pensons que c'est mettre nos deux mains ensemble et fermer les yeux. Vous n'allez jamais lire ça quelque part dans le Nouveau Testament. Il est dit de lever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et il dit de s'agenouiller en priant. Les deux choses que l'Écriture nous dit de faire, souvent nous ne les faisons pas. Et les deux choses qu'il ne nous dit jamais de faire, nous les faisons de manière répétée. Et ainsi, on ajoute à l'Écriture de la tradition. Et c'est ce dont nous accusons l'Église catholique. Il faut faire attention lorsque nous lançons un boomerang que ça ne revienne pas et nous tape la nuque. Alléluia. Nous devons être un, juste comme lui est un avec le Père. On va retourner dans Jean chapitre 13. Lorsque Jésus est littéralement en train de dresser le portrait de ce qu'il allait faire au calvaire, alors qu'il est en train de laver les pieds des disciples, pour aller directement à la vérité, Jean 13, au verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il n'était pas en train d'introduire un nouveau rituel. Mais il arrive de temps en temps que des hommes et des femmes soient touchés et veuillent laver les pieds des frères et sœurs. L'année passée, je suis allé dans les montagnes à un petit rassemblement. Et lorsque nous sommes arrivés, le pasteur nous a dit de nous asseoir et il a dit d'enlever ses chaussures et ses chaussettes et il a lavé les pieds. C'était une merveilleuse introduction d'une réunion qui s'est avérée être merveilleuse. Là, je dis bien que Jésus n'était pas nécessairement en train d'introduire une nouvelle doctrine. Mais il est en train de communiquer que lui, il faut être humble, juste comme lui est humble. Une chose qu'il ne faut pas faire dans l'Est, c'est de toucher les pieds de quelqu'un. Les plus jeunes personnes vont, quand ils vous rencontrent, vont se faire une courbe et toucher jusque vos pieds. Mais c'est la chose la plus basse à faire que de toucher les pieds de quelqu'un. Alléluia. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2 que ce qui n'a pas de valeur de réputation, il a pris la forme d'un serviteur. Et il s'est humilié et il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et bien sûr, c'est ce grand débat qu'avaient les disciples. Les disciples discutaient, mais Jésus ne discutait pas. Il a mis les choses en ordre. On trouve ça dans Matthieu 20, verset 20. Où il est dit que la mère des fils de Zébédée voulait les deux meilleures places pour ses deux fils. C'était une maman ambitieuse. Et à cette occasion-là, elle avait tout à fait tort. On peut être de manière naturelle ambitieux pour nos propres enfants. Et finalement, par cette ambition, les détourner de la volonté de Dieu. Lorsque les autres disciples ont entendu qu'il y avait cette réclamation pour les fils de Zébédée, Jésus leur a parlé de la manière suivante. On trouve ça au verset 24. Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et le terme qui est traduit par serviteur, c'est « diacre ». Et ensuite, il continue en disant, « Et quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour être serviteur. C'est le grand modèle que Dieu donne pour ceux qui désirent être dans le ministère. Mais ce n'est pas seulement limité pour ceux qui veulent être dans le ministère, c'est pour chacun de ceux qui veulent suivre le Seigneur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a renoncé à toute réputation. Les choses que nous essayons de justifier souvent, c'est notre réputation. J'ai cité hier Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. C'est merveilleux lorsque le Seigneur Dieu nous convainc que nous sommes rien. Nous n'avons rien à expliquer, rien à justifier, rien à protéger. Les gens peuvent nous piétiner. Ils peuvent dire des choses méchantes à notre sujet. C'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ça coule et ça part. Alléluia. Juste comme le Fils de l'homme. On va considérer encore une application pratique de cette vérité qu'on trouve dans Éphésiens, au chapitre 5. Ça concerne les responsabilités des femmes à l'égard de leur mari. Il nous est dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur en toutes choses. Il dit deux choses aux femmes. Mais Paul parle trois choses aux hommes. Il dit que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est au verset 25. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et on trouve ça aussi au verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et ensuite au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Quel défi extraordinaire pour ceux d'entre nous qui sommes maris. Nous devons être des sauveurs pour notre femme comme Christ l'a été pour l'Église. Nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et nous devons nourrir nos femmes comme Christ a nourri l'Église. C'est une application merveilleuse de cette vérité merveilleuse. C'est ce qui était vrai en lui et vrai aussi en nous. C'est là où nous avons commencé en 1 Jean 2, verset 8.
A new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you.
Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous.
As he is light, so we are light.
Comme il était la lumière, nous aussi nous sommes lumière. Comme il a marché, nous aussi nous devons marcher. Comme il était pur, nous aussi nous devons être purs. Comme il était juste, nous aussi nous devons être justes, juste comme lui. Comme il a aimé, nous aussi nous devons aimer sur cette terre, dans ce monde. Comme il était un avec le Père, nous aussi nous devons être un avec le Père. Comme il s'est humilié, nous aussi nous devons nous humilier. Gloire à Dieu. Et les maris doivent aimer leur femme et doivent être un sauveur et celui qui nourrit leur épouse, comme lui l'a fait pour l'Église. Ce qui était vrai en lui est aussi vrai en vous et en moi. Amen. Est-ce que ce n'est pas un standard merveilleux? Et c'est ça que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il est monté au ciel. Afin de libérer l'esprit qui était en lui et de le déverser sur nous. Pour accomplir ce que l'homme naturel déclarera impossible. Rendre cela possible en vous et en moi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Thank you. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ce merveilleux standard. Et Seigneur, ta parole n'est pas simplement une parole qui explique les choses idéales, mais Seigneur, c'est une réalité, une puissance aussi. Et Seigneur, nous demandons ce matin que tu accomplisses ton œuvre, que ta parole puisse agir dans nos vies, Seigneur, que ta parole soit l'œuvre pour que, Seigneur, ces choses qui sont écrites deviennent, comme on l'a entendu, une réalité dans nos vies. Et que, étant une réalité dans nos vies, ça devienne une réalité dans l'Église et autour de nous. Seigneur, déverse ton Saint-Esprit. Rends-nous semblables à toi. Rends-nous, Seigneur, comme toi tu étais. Seigneur, fais ce miracle dans les vies, Seigneur, dans ma vie, dans la vie des frères et sœurs pendant ce week-end. Seigneur, que chacun reçoive de toi ce que tu as à donner, Seigneur. Tu as des choses à donner. Tu as ton esprit à donner. Tu as ta vie à donner. Et que, Seigneur, ce soit une réalité ce week-end. Seigneur, dans les réunions qui restent encore, que tu opères des prodiges et des miracles. Par le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.